Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, Macron a-t-il dompté les intellectuels ? Comme le rappelait le Figaro hier, Emmanuel Macron a pu avoir la dent dure avec un milieu qu'il connaît bien par ailleurs pour l'avoir côtoyé avant d'entrer en politique, celui des intellectuels. À propos des stars de la discipline, voici ce qu'il disait pendant la campagne présidentielle selon les propos recueillis par le romancier Philippe Besson. Ils sont dans les vieux schémas, ils regardent avec les yeux d'hier. Pour une large part d'entre eux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas produit quelque chose de renversant. Ils n'aiment pas l'action politique, mais vivent de son commentaire. Ils sont devenus des éditorialistes. Alors soit parce qu'ils ne sont pas rancuniers, soit parce qu'ils ne se sentaient pas visés, 64 intellectuels ont accepté hier de venir discuter avec le président de la République à l'Élysée. Une soirée que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne hier, 8 heures de débat, au cours desquelles il a été question de fiscalité, de laïcité, de bioéthique, de l'Algérie et plus largement de politique. Exercice forcément frustrant étant donné la pluralité des sujets et le nombre des intervenants, mais exercice captivant ne serait-ce que du fait de sa rareté. Voir le chef de l'État être interpellé directement par des intellectuels, voilà qui n'est pas si fréquent sous cette République. Alors Macron a-t-il dompté les intellectuels ? Eh bien, nous allons discuter avec quatre d'entre eux, deux qui étaient présentes hier soir à l'Élysée, à commencer par vous, Perrine Simon-Naoum, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, philosophe, directrice de recherche au CNRS, directrice de collection Essai chez Odile Jacob et productrice radio puisque vous animez une émission chaque mois sur RCJ dans laquelle vous recevez justement des intellectuels. Pour discuter avec vous, quelqu'un que vous avez croisé donc hier à l'Élysée, Agathe Cagé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, vous dirigez l'agence de conseil en stratégie Compass Label. Vous avez été secrétaire général de la campagne de Benoît Hamon à la présidentielle et vous avez publié il y a quelques semaines de cela « Faire tomber les murs entre intellectuels et politiques ». Ça tombe très bien pour la discussion de ce soir. Livre publié aux éditions Fayard. Nos deux autres invités ont regardé de l'extérieur la discussion entre le chef de l'État et ses invités. François Doss, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, philosophe, professeur des universités. Vous avez publié chez Gallimard une saga des intellectuels français en deux volumes et un livre que vous avez consacré à l'actuel président Emmanuel Macron et à ses rapports avec un philosophe, le philosophe et le président, en l'occurrence Paul Ricoeur, livre que vous aviez publié chez Stock. Et puis, il était à mes côtés hier soir pour suivre cette discussion, c'est Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
La suite dans les idées, chaque samedi à la mi-journée sur France Culture, et vous dirigez par ailleurs le site AOC, Analyse Opinion Critique. Et je rappelle que le débat est désormais disponible en intégralité, le débat d'hier à l'Élysée, en podcast. Je rappelle, hein, 8 heures de débat, j'imagine qu'il y a plusieurs épisodes à télécharger. Première question que j'ai envie de poser à Perrine Simon-Naoum et à Agathe Cagé, c'est comment ça va ?
Bah, très bien.
Oui, après 8 heures de débat, écoutez, il a fallu tenir le coup quand même.
Oui, je pense qu'on a moins bien tenu le coup que le président, qui nous a étonnés par sa vitalité, parce que je pense que à 3h moins quart du matin, il aurait pu continuer à parler pendant 10 heures, mais c'était un débat, je trouve, roboratif et qui ouvrait beaucoup sur l'avenir. Donc quand on sort de ce type de débat, on en sort très dynamisé, me semble-t-il.
Est-ce que vous avez, comment dire, le même dynamisme ce soir que celui qu'évoque Perrine Simon-Naoum à Agathe
Cagé? J'ai le même dynamisme, sauf si vous me demandez de recommencer tout de suite après l'émission, l'exercice, ce sera peut-être un peu plus compliqué. On a quand même eu la chance hier soir d'entendre des personnalités de l'université, de la recherche française qui ont des vraies convictions et des paroles extrêmement fortes. Je ne vais pas tous les citer, ils étaient 64, donc 63, Serge Haroche, Monique Octos-Perber, Daniel Cohen, Irène Théry sur nos valeurs communes, donc certes 8 heures, mais 8 heures aussi pour les entendre, et ça c'était passionnant.
Cela dit, il faut peut-être aussi au moins autant de résistance en étant de l'extérieur, en suivant ça sur un écran. François Doss, vous avez suivi l'intégralité des discussions ?
Oui, absolument. Donc très fatigué aujourd'hui, évidemment, pour m'être couché tôt ce matin. Mais non, passionnant. Passionnant, c'est une performance physique, intellectuelle de la part de notre président. Et puis, passionnant parce que, comme vous l'avez rappelé, j'ai fait cette grande somme sur la deuxième moitié du XXe siècle, sur les intellectuels. Effectivement, on me posait les questions cette année en me disant où sont-ils passés ? Y a-t-il encore des intellectuels ? Y a plus les Foucault, Lacan, Althusser, Barthes, etc. Où sont-ils ? Eh bien, on a vu qu'il en reste.
Il en reste. Au moins 64.
Il en reste.
Allez, oui. Plus un avec vous, François Dos, 65. Alors, plus un peut-être d'ailleurs 66. Je pense à vous, bien sûr, Sylvain Bourmeau, mais non, je pensais plus à Emmanuel Macron pour tout vous dire. Ouais. Évidemment, vous êtes un intellectuel, Sylvain Bourmeau. Pourquoi n'étiez-vous pas à l'Élysée d'ailleurs hier soir ? Pourquoi n'avez-vous pas été
invité ? Parce que j'étais à France Culture et on était ensemble pour essayer de commenter ce débat. Mais au fond, ce que vient de dire François Dos, quand on travaille à France Culture et quand on travaille à France Culture depuis plus de 20 ans, c'est pas une nouveauté, c'est pas une nouvelle. On sait bien qu'il y a non seulement des intellectuels en France, mais qu'il y en a encore beaucoup plus qu'à l'époque des grands noms qu'il citait, que jamais sans doute la recherche française en sciences humaines et sociales en particulier, mais dans les autres domaines aussi, n'a été aussi prolixe. Et peut-être qu'on connaît moins les noms, parce qu'il y a beaucoup plus de chercheurs, qu'ils ont tendance à être plus spécialisés, à publier dans des revues spécialisées, qu'il y a cette professionnalisation de la recherche qui s'est mise en œuvre. Mais au fond, il y a une vitalité, il y a une richesse, il y a un pluralisme, il y a des controverses. Donc tout ça, c'est pas une surprise. En revanche, hier soir, ce qui s'est passé était inédit, parce que c'est la rencontre entre un président de la République, et un président de la République sous la Ve République, c'est pas n'importe quoi, et ce groupe de 65 personnes.
Qu'est-ce qui fait d'ailleurs, Agathe Cagé et Perrine Simon-Naoum, que vous avez accepté de participer à cette rencontre, Agathe Cagé ?
D'abord parce que je ne me considère pas comme une intellectuelle star, donc je ne me sentais pas visée par les propos préalables du président de la République. Non, trêve de plaisanterie, moi c'est au cœur de mes convictions. Il faut qu'on repense différemment la façon de faire des politiques et de faire des politiques publiques. Il faut davantage associer le monde de la recherche et de l'université à la conception des politiques publiques, davantage associer aussi le monde associatif et les citoyens. Donc si à un moment donné, il y a un débat il y a une invitation qui est faite à un débat. Alors, on peut discuter de la forme du débat, de la possibilité ou pas de répondre aux réponses du président de la République. C'est une autre question. Mais si à un moment donné, le président de la République dit « Je vais inviter des personnalités de différentes générations, de différentes disciplines, et je suis en plus à peu près paritaire, pas totalement, mais un peu plus que ce qu'est sans doute l'université française », ça me semblait compliqué de refuser.
Vous n'avez eu aucune hésitation sur le fait d'accepter ? Parce que c'est aussi, ça n'était pas que ça. Enfin, ça n'était pas que ça. Vous allez nous le dire dans le cadre de cette discussion. Mais c'est aussi une opération, évidemment, de communication politique, voir le président face à des intellectuels. J'irai pas jusqu'à dire que ça le légitime, parce qu'il n'a pas besoin de ça. Il a été évidemment légitimé par le vote en 2017, mais en tout cas, ça participe aussi de sa communication.
Oui, mais il y a un rôle social du chercheur de participer au débat public. Si on refuse cette participation au débat public, et là c'est intéressant parce que c'est un débat transparent, parce que retransmis en direct dans son intégralité sur France Culture, si on refuse cette participation au débat public, on peut avoir une parole extrêmement critique par rapport au président de la République, on peut aller la porter à l'Élysée, on peut même, si on le souhaite, quitter l'Élysée une fois qu'on a porté cette parole critique, mais si on refuse de participer au débat public, on n'est pas un intellectuel critique. Or, le rôle de l'intellectuel est d'être critique de façon positive et constructive.
Vous êtes d'accord avec ça, Perrine Simon-Naoum ?
Oui, tout à fait. L'intellectuel est un intellectuel critique. C'est aussi un intellectuel qui doit comprendre maintenant, et c'est quelque chose, me semble-t-il, d'assez nouveau dans l'histoire des intellectuels français, parce que l'intellectuel critique, c'est toujours pensé comme finalement en dehors, extérieur aux politiques publiques, là pour porter un jugement sur ces politiques publiques. Et aujourd'hui, où la crise de la démocratie est aussi la crise de la pensée, il faut bien le dire, je crois qu'il est très important, et je dirais que c'est l'opération réalisée par le président de la République hier, qui n'est pas du tout, comme vous l'analysez, je crois, une opération de communication.
C'est-à-dire je dis que ce n'est pas que ça, mais c'est aussi ça quand même.
Il s'agissait pour lui, et je crois que c'est à ça qu'a abouti le débat, qui me paraît extrêmement intéressant, de montrer quelle est la différence entre le politique et le savant. Quelles sont les limites du politique ? Et il l'a montré, et il a montré ses désaccords. Alors certains ont regretté que ça ne soit pas un débat, c'est-à-dire que il était entendu dès le départ que nous prenions la parole, mais que nous n'aurions qu'une fois, que nous n'allions pas dialoguer.
Et je pense sans quoi vous seriez encore là-bas. Hein.
c'est probable. Enfin, nous serions épuisés et lui parlerait tout seul, je pense. Mais ce qui était très intéressant, c'était qu'il a bien montré quelle était la posture du politique et au contraire, il a engagé les intellectuels à entrer sur l'arène publique et à reprendre l'initiative sur un certain nombre de domaines.
Donc on avait bien 64 intellectuels et un politique, en l'occurrence le chef de l'État, François Dos. Parce que je me posais la question tout à l'heure justement sur le 65e ou le 66e, c'est-à-dire en y mettant aussi Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il vient de ce monde-là, c'est un intellectuel.
C'est un intellectuel, tout à fait.
Mais peut-être que l'intellectuel s'est effacé depuis qu'il est président.
Mais il est en fonction comme président de la République. Je crois que ça a été clair dans la réponse qu'il a faite à Benjamin Stora. C'est-à-dire qu'il lui a dit, voilà...
Alors c'était question sur l'Algérie.
Il faut intervenir sur l'Algérie. Et il lui a répondu, Benjamin Stora, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'analyse que vous faites du mouvement algérien. Mais... dans ma fonction, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la fonction présidentielle, du politique et du responsable, et puis la fonction de l'intellectuel. Et je crois qu'il a appelé, je pense que, effectivement, Perrine, elle a absolument raison, et je la suis tout à fait. C'est-à-dire qu'il a appelé les intellectuels à assumer leurs responsabilités, à participer au débat public. Et c'est là où il a renvoyé, d'ailleurs, dans la balle dans le camp de Benjamin Stora, en disant c'est aux intellectuels à se porter du côté du peuple algérien. C'est pas, dans sa fonction, il apparaîtrait comme un manipulateur. Tout le monde dit, effectivement, que le président de la République française ne doit en aucune manière, si on veut le succès de ce mouvement démocratique algérien, intervenir. Alors, moi, je crois que c'est pas une opération... Je suis d'accord aussi... collègue historienne, c'est pas une opération de communication parce que ça s'intègre dans le grand débat, c'est-à-dire qu'il a dialogué avec tout le monde.
On peut considérer que le grand débat est une opération de communication,
les agriculteurs,
François Dos.
Les régions, etc. Et donc, pourquoi ne pas dialoguer avec les intellectuels ? Ouais. Voilà, donc ouais, c'est une catégorie qui effectivement s'est fait connaître par son silence, hein, je veux dire, sur la place publique, il y a eu d'autres débats. Je vous rappelle, par exemple, dans les années 80, ce débat sur le silence des intellectuels. Et là, effectivement, il y a une prise en compte des enjeux sociétaux, hein, de la part des intellectuels, qui ont beaucoup à travailler, on va y revenir, parce que on est sur un champ de ruines, hein. Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que on est dans une situation où, et là, il y a, bon, la plupart des intellectuels qui étaient là, hein, moi, regard extérieur, hein, qui étaient là, ils étaient pris dans une tension qui n'était pas évidente pour eux, parce que ils étaient là comme spécialistes, historiens, sociologues, biologistes, physiciens, etc., universitaires, chercheurs, et qui étaient, et c'est normal, ils intervenaient sur, c'est un peu leur fonction aussi, sur leur savoir savant, sur leurs demandes par rapport à l'État. Et dans ce sens, ils pouvaient éclairer le pouvoir politique, Emmanuel Macron, sur ce que Foucault appelait, ou Deleuze, l'intellectuel spécifique, c'est-à-dire qu'ils faisaient valoir leur savoir pour faire avancer les choses sur le plan social. Mais en même temps, le rôle de l'intellectuel, je pense qu'on y reviendra, est au-delà de ça. Il doit aussi sortir de sa discipline et avoir une visée plus globalisante.
Alors, effectivement, y revenir également sur le constat que vous faites de ce champ de ruines. Mais avant cela, Sylvain Bourmeau, peut-être, alors sur, je ne sais pas si vous voulez revenir, ou sur l'opération de communication, notamment, en tout cas, c'était le sens de mon propos.
Il y a clairement une opération de communication, mais elle est effectivement globale. C'est-à-dire que le grand débat est en partie une opération de communication. De toute façon, ce serait absurde de séparer la communication de l'action quand on parle de politique. Les deux dimensions sont toujours étroitement liées. Oui. Mais moi, ce qui m'a frappé hier, c'est au fond, je me suis dit, mais parce qu'il arrive fréquemment à des présidents de la République de rencontrer des intellectuels. Mais il les rencontre de manière privée. Il les rencontre parce qu'il les invite à déjeuner ou à dîner, à l'Élysée par exemple. Et en général, ils sont moins nombreux, ils sont une dizaine, une douzaine. Et au fond, je me suis dit, mais se dit-il des choses différentes ? En fait, je pense que, de façon qui peut paraître de prime abord paradoxale, les intellectuels, hier, ont dit des choses... plus franchement au président de la République que lors des dîners privés avec un président de la République. Pourquoi ? Parce que
c'était public, parce que c'était retransmis sur l'antenne de France Culture, parce qu'ils étaient entourés de leur père, ils étaient sous le regard et le contrôle de leur père, c'est-à-dire dans un mode de fonctionnement qui ressemble au fonctionnement académique. Et donc, si on ne veut pas se ridiculiser, on ne peut pas ravaler ces convictions, qui sont par ailleurs connues parce qu'on les a publiées. Et je pense que, d'une certaine façon, ça a permis une grande franchise de la part des intellectuels. Et pour le citoyen que j'étais, regardant ce qui se passait, j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce qu'on est quand même dans des institutions dans lesquelles le président de la République n'a de compte à rendre à personne, sauf dans le cadre d'une campagne pour une réélection, éventuellement. Et donc ces moments où on n'est pas dans le système britannique où le Premier ministre a en face de lui deux fois par semaine l'opposition qui lui pose des questions. Et là, on était dans un dispositif, non pas que ce soit un parlement des intellectuels, mais on avait le plaisir à voir le président de la République devoir écouter des gens qui publiquement lui disent des choses. Et rien que pour ça, ce dispositif était intéressant. Alors après, on peut ergoter, on peut se dire, bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'échange. Et peut-être
le dispositif, de manière, ne le permettait pas.
Ne le permettait pas, mais on y reviendra. Moi, j'ai été frappé quand même. J'ai à la fois pris beaucoup de plaisir, je dirais, à entendre certaines des interventions et à me dire, mais c'est formidable que le président de la République entende ça, parce que je suis pas sûr qu'il prenne le temps de lire les productions de ces intellectuels. Il n'en a pas il a pas l'agenda pour ça. Donc je suis content qu'il entende ça. Ce qui m'a peut-être plus déçu, c'est qu'à aucun moment il n'est montré qu'il était au fond ébranlé par l'une des interventions des intellectuels ou des chercheurs présents. À aucun moment, alors que dans le monde académique, ça arrive, et même par politesse, on reçoit la critique, l'objection, on en prend acte, et puis on est sincèrement, ou plus ou moins sincèrement, dans le doute. Ça fait partie du rapport à la connaissance qu'on a. Là, en fait, on a quelqu'un qui, par moment, quand même, est apparu davantage comme, mais enfin, je l'ai pas passé moi, Agathe Cagé pourra nous dire, le candidat d'un grand oral à l'ENA. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de sortir des fiches sur tous les sujets. Il entend un intellectuel lui parler de quelque chose, hop, il avait réponse à tout.
Sur cette question de la franchise et de la transparence, moi, ce qui m'a paru assez significatif, notamment sur ce sujet, c'est lorsque les économistes qui ont participé à l'élaboration du programme d'Emmanuel Macron, Jean Pisani-Ferry, Philippe Martin, Philippe Aguillon, qui sont adressés à lui en lui disant, bah voilà, nous, alors, on a participé à ce programme, mais on considère que les réformes que vous avez faites, effectivement, ne sont peut-être pas allées assez loin. Là, c'est peut-être effectivement, comme le disait Sylvain Bourmeau, quelque chose qui est plus facile à dire, finalement, quand il y a un public, Perrine Simon-Naoum, parce qu'il y a la nécessité de ne pas se montrer trop déférent à l'égard du pouvoir.
Oh, pour connaître quelques-uns de ces économistes, notamment Daniel Cohen, je pense que ce sont des gens qui ne se montrent jamais déférents et qui... Ouais.
Alors Daniel Cohen, je le mettais pas là-dedans, hein, parce que lui n'a pas participé au programme d'Emmanuel Macron, sauf
Philippe
erreur de ma part.
voilà, mais sont des gens qui donnent leur avis. Voilà. Non, je crois, pour revenir à ce que disait Sylvain Bourmeau, moi, il me semble que ce qui allait au-delà d'une rencontre ou entre un petit aéropage d'intellectuels et le président de la République, c'était en fait ce message qu'il a voulu faire passer. Et s'il y avait une communication, je crois que c'était celle-là. C'est-à-dire que il a voulu montrer qu'il n'y avait pas de progrès qui ne soit complexe. Et en fait, encore une fois, je crois qu'il a essayé de marquer chaque fois quelles étaient les limites du politique. Et c'était là qu'il m'a paru intéressant d'avoir toute une diversité de sujets. Effectivement, on passait du scientifique à l'environnement, à la PMA, aux questions de territoire, aux questions de fiscalité, etc. Pour montrer que, en réalité, se dégageait une problématique commune dans laquelle sont engagés et les intellectuels et les politiques, mais de façon encore une fois différente, et à laquelle il leur faut répondre, mais de façon différente, qui concerne à la fois les rapports entre l'individu et le collectif, les problèmes de représentation, les problèmes d'inégalité sociale, fiscale, etc. Et surtout l'importance de savoir ce qu'on mettait derrière les mots. Et
c'est pour ça que... Est-ce que vous voulez dire aussi, Perrine Simon-Naoum, que du coup, ça a peut-être, alors si ce n'est ébranlé les intellectuels qui étaient face à lui, mais les a fait prendre conscience de la complexité de certaines questions qu'ils auraient tendance, en tant qu'experts de leur domaine, à sous-évaluer?
Non, il me semble que chacun d'entre eux, chacun d'entre nous est bien conscient de la complexité des problèmes qu'ils posent. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on était là pour essayer de fournir un diagnostic de la crise majeure dans laquelle on est, et de montrer, je crois que c'est ce qu'a très bien dit Frédéric Worms, que cette crise, c'était une addition de crises aussi. On ne peut pas la traiter chaque fois dans un domaine particulier. Et que donc, si vous voulez, l'engagement auquel il appelle les intellectuels, c'est évidemment de venir répondre à ces multiples crises.
Agathe Cagé, vous, lorsque vous êtes intervenue, vous avez évoqué notamment alors les inégalités de répartition du patrimoine, et puis vous avez regretté le fait qu'une expérimentation comme celle du revenu universel d'existence n'ait pas été menée jusqu'à son terme, qu'elle n'est pas, et donc encore moins généralisée. Qu'est-ce que vous attendiez, alors, justement, vous, de l'interpellation à l'égard du chef de l'État? Vous dites, bon, ça fait partie de la responsabilité de l'intellectuel critique, disons, que d'accepter ce genre d'invitation, mais est-ce que vous en attendiez quelque chose? Est-ce que vous attendiez que, face à vous, le chef de l'État vous dise peut-être, oui, peut-être qu'on a eu tort et qu'il aurait fallu, par exemple, mener cette expérimentation jusqu'au bout?
Moi, j'attendais pas de regrets. Hein. Pour moi, on est dans une phase où il faut construire des choses. Hein. C'est pas le moment de se dire on aurait dû faire différemment. Hein. Pour moi, la vraie question aujourd'hui, c'est on voit bien que les choses ne fonctionnent pas. On voit bien que la manière dont les choses ont été conduites depuis plusieurs mois ne fonctionne pas. Donc, comment on fait différemment? Pour moi, là est le vrai sujet. Et c'est là que je rejoins vraiment Sylvain Bourmeau. Ce qui a manqué hier soir, c'est cette capacité du chef de l'État à douter. Et cette capacité du chef de l'État à douter par rapport à des paroles forte qui leur amenait une certaine forme de complexité. C'est-à-dire que moi, je prétendais pas à titre individuel faire douter le chef de l'État. Par contre, oui, quand j'entends Irène Théry l'interpeller sur le calendrier de ses décisions sur la PMA, ça doit l'amener à douter. Quand j'entends Serge Laroche l'interpeller sur la situation de la recherche en France, ça doit l'amener à douter et pas seulement à présenter la politique de recherche française telle qu'elle est conduite avec la ministre Frédérique Vidal. Et ce doute-là, qui d'une certaine manière, une acceptation de la complexité, ce doute-là a un peu manqué hier. Et je prends, parce que vous l'avez cité, l'exemple du revenu universel d'existence, enfin du revenu plus simplement d'existence, que Daniel Cohen lui en a parlé, je lui en ai parlé, Jill Finkelstein lui en a parlé. Et la question qu'on lui a posée, c'est: Monsieur le Président, en novembre 2016, vous avez un département, la Gironde, qui propose l'expérimentation d'un revenu d'existence qui n'aura rien à voir avec le revenu universel d'existence de Benoît Hamon. Il le propose, vous avez 18 départements qui le rejoignent. Ils associent des citoyens pour savoir quel type de revenu d'existence expérimenter. Vous avez l'Institut des politiques publiques, chercheurs, des économistes indépendants qui viennent faire l'évaluation, qui font un rapport. Vous avez des départements qui mettent de l'argent sur la table, qui vont au Parlement et qui demandent au Parlement la possibilité d'avoir une loi d'expérimentation. Et le Parlement, La République En Marche, refuse cette loi d'expérimentation. Et quand vous demandez au président de la République, vous ne pensez pas que le mouvement des Gilets jaunes vous dit aussi accepter qu'on tente de faire des politiques différemment, accepter l'expérimentation, notamment quand elle a une base territoriale et citoyenne? Il vous dit: je ne pouvais pas accepter cette expérimentation de revenus d'existence car j'avais été élu à l'élection présidentielle contre Benoît Hamon, donc les Français avaient rejeté le revenu universel d'existence, donc les Français rejetaient a priori cette expérimentation alors qu'on lui parlait de quelque chose qui n'avait absolument rien à voir. Et là, je pense qu'il aurait dû sans doute accepter dans cet exercice de pas seulement montrer qu'il a, de pas seulement présenter sa politique et de pas seulement montrer sa capacité à réfléchir, à répondre sur un nombre de sujets extrêmement divers, mais aussi à se sentir à un moment donné en situation de doute, en situation de perplexité, en situation d'interrogation. Et oui, quand on entend Monique Cantos-Perber, quand on entend Irène Théry, quand on entend Mireille Delmas-Party nous parler de carré-humanisme, moi ça me fait réfléchir, ça me fait douter longtemps. Et ça me fait encore douter ce que j'ai entendu hier. Et sans doute au grand oral de l'ENA, j'aurai une capacité à répondre coup sur coup et du tac au tac très rapidement, en quelques instants, à chacune des phrases qui étaient prononcées. Mais est-ce que j'aurais vraiment compris ce qu'on venait de me dire de la situation extrêmement délicate dans laquelle est le pays aujourd'hui? J'en doute.
François Doss.
Non, d'abord, je ne pense pas que ce soit sa fonction d'adopter une posture de doute cartésien. Le grand débat qu'il est en train de mener, c'est la prise en compte quand même d'une certaine écoute de ce qui se passe. Je veux dire, le mouvement social, effectivement, il a provoqué ce grand débat et dont, effectivement, une espèce de démocratie délibérative émane, et avec la prise en compte, comme vous l'avez dit, de la complexité des caractères, du caractère paradoxal. Hein, on l'avait beaucoup gossé sur le en même temps, mais c'est la figure du paradoxe, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel dossier, effectivement, surtout la fiscalité, on pourrait prendre tous les exemples, il y a une situation où il y a le moindre mal qui est à prendre en compte. Non, moi je crois que s'il y a un élément critique que je ferais sur le débat, c'est non pas tous les intellectuels qui étaient là, mais la plupart. La plupart ont tendance quand même à voir midi à leur porte et à la porte de leur discipline. Hein, je ne vais pas stigmatiser quelques interventions qui m'ont fait sourire hier, mais ce qui se passe ici, c'est que on attendait des intellectuels dans ce débat. Je pense que quelqu'un a bien rempli sa mission dans les limites temporelles qui étaient les siennes, qui étaient Olivier Mongin. Quand Olivier Mongin parle de crise de l'historicité qu'on connaît aujourd'hui et de la nécessité d'articuler l'historique et le politique. C'est là le véritable problème. On attend d'un président de la République et du pouvoir politique. Mais ça peut pas venir de lui, parce que lui, il est dans le court-termisme. Il va répondre, effectivement, sur l'action qui est la sienne et son agenda, qui est évidemment extrêmement contraint. Alors que le politique, et ça, c'est le rôle des intellectuels, comme le rôle d'ailleurs du mouvement qu'il a lancé, qui ne joue pas là son rôle. C'est un moteur un peu qui tourne à vide. C'est d'offrir aux Français quelque chose, et ça il en est conscient dans ses interventions. Reprenons ce qu'il a dit hier sur la nécessité du bien commun, sur la nécessité d'un cadre conceptuel. On a besoin du pouvoir politique, il offre ce que Ricoeur appelait, après Koselleck, un horizon d'attente. Un horizon d'attente qui ne se rabatte pas sur l'espace d'expérience, qui soit une utopie. Il l'a dit d'ailleurs qu'il voulait réévaluer les idéologies. Utopie concrète, hein, pas une utopie à la 1984 d'Orwell.
Mais François Doss, par rapport à cette attente, ce sont les intellectuels qui font défaut aujourd'hui, oui. Ou est-ce que ça n'est pas aussi le monde politique la plupart... qui s'est aussi séparé de ce milieu intellectuel, c'est-à-dire qui a arrêté peut-être d'y faire appel pour aller plutôt du côté, je ne sais pas moi, des conseillers en communication, des think tanks.
Perrine Simon-Naoun, hier, a parlé de nécessité de grands récits. Et puis, il y a eu, je vous disais, Mongin, puis il y en a quelques autres. Moi, je vous ajouterais un concept castoriadien qui manque, qui est l'horizon social historique, l'imaginaire social historique, qui est au degré zéro aujourd'hui. Mais je veux dire, là, c'est pas de la faute de Macron, contrairement à ce que disent beaucoup qui se jettent sur lui. Non, on est dans une situation historique dont il faut bien comprendre. C'est pour ça que je parlais de paysage de ruines, que on a notre deuil à faire d'un certain nombre de prêt-à-penser sur laquelle la gauche a fonctionné durant tout le XXe siècle, hein, et que je décris, je vais pas être dans les détails, dans la saga des intellectuels français de 44 à 89, jusqu'à la chute du mur. Et tout est à reprendre, tout est à reprendre, non pas en faisant la table rase du passé, mais justement en revisitant le passé, hein, comme disait Mongin, c'est plus tradition, modernité, c'est en revisitant les possibles non avérés du passé, c'est-à-dire en fondamentalement en revenant là-dessus, en retravaillant sérieusement pour créer un projet commun, un horizon d'attente commun.
Sylvain Gourmand.
Il y a des intellectuels qui font ça, ils n'étaient pas forcément invités hier, mais
ou alors ils l'avaient été, ils avaient peut-être refusé aussi, hein. Je pense par exemple à certain Frédéric Lordon, économiste,
oui, voilà, évidemment, faut le citer. C'est pas du tout à lui que je pensais, là je pensais plutôt au livre, au petit livre qui me semble remplir le programme que décrit François Doss, qui est Où atterrir, ce livre de Bruno Latour sur la crise écologique en particulier. Mais non, moi je voulais revenir sur une chose qui je pense pas que le président de la République était dans ce rôle non plus, c'est-à-dire que celui de qui trace un horizon voilà, au fond il a été dans un rôle qui, moi, et c'est la première réaction que j'ai eue hier quand on commentait en direct, Hervé, après la première pause, il a été dans un rôle qui, à certains égards, m'a fait penser à la façon dont Nicolas Sarkozy habitait la présidence de la République. Nicolas Sarkozy avait pour habitude de de parler comme un chef de PME, gérant la France comme une PME.
Emmanuel Macron, c'est pas ça. La première comparaison qui m'est venue à l'esprit hier, c'est un joueur de SimCity. Quelqu'un qui joue à gouverner la France comme un jeu vidéo. Alors j'ai ma classe moyenne, là j'ai un problème avec mon éducation, il va falloir que je fasse pivoter le modèle. Enfin, je veux dire, on pourrait reprendre le lexique. C'était frappant parce que d'un côté, on avait des économistes qui étaient en train d'essayer de décrire une situation de façon subtile, de façon précise. Et on avait en face une autre manière de parler. Et on avait un clash, on avait un contraste très très fort. Je pense que le président de la République a fait exprès d'ailleurs, parce que il a voulu faire ressortir qu'il était un homme d'action, bon savant et politique, disait tout à l'heure Perrine Simon-Naou. On est effectivement, il a voulu jouer de ça.
Mais là, ce contraste, est-ce qu'il n'est pas constitutif de la vie politique française aujourd'hui, Sylvain Bourbon? Oui, c'est pas uniquement lié à la personnalité d'Emmanuel Macron.
Il n'est pas complètement nouveau, et je pense que on est dans une tension qui peut être productive. C'est-à-dire que surtout si le politique se laisse interroger par les intellectuels, par les savants, par les chercheurs. Et moi, un des moments très forts hier, j'ai trouvé, du point de vue de la responsabilité démocratique, cette responsabilité qui fait tant défaut à la fonction présidentielle, et c'est pas la faute d'Emmanuel Macron, c'est le moment où il a été interpellé par deux économistes. Et pas n'importe lesquels. Deux des contributeurs de son programme.
Ce que j'évoquais tout à l'heure, du coup.
Philippe Aillon et
Jean Pisani-Ferry.
Et c'est pas des gauchistes, c'est des gens qui ont participé à l'élaboration de son programme. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir comme citoyen à entendre des gens qui avaient participé à ce programme dire au président de la République, mais attendez, on s'y retrouve pas. Et, Philippe Aillon a dû prononcer 45 fois le « en même temps » dans son intervention pour bien signifier qu'il y avait un déséquilibre par rapport à ce qui avait été prévu, promis, ce sur quoi ils avaient travaillé, et qu'il y avait la flat tax, mais il n'y avait pas la suppression des niches fiscales, et que donc la dimension sociale de cette politique était absente. Eh bien, entendre publiquement ces économistes faire ce reproche au président de la République, qui n'a pas répondu, était une chose extrêmement importante du point de vue démocratique hier soir. Peut-être la chose la plus importante de ce débat.
Perrine Simon-Naoum, comment est-ce que cette tension sans doute nécessaire entre politique et intellectuel peut être productive, comme le disait Sylvain Bourmeau, et en quoi ça rentre en correspondance avec ce grand récit dont vous avez parlé hier soir au président de la République?
Bien, il me semble, et François Doss l'a dit en commençant cette émission, que c'est précisément la fonction et la définition de l'intellectuel de sortir de sa discipline pour aller sur des débats publics. Et ce qui apparaît très bien maintenant, ce que j'ai essayé modestement de dire hier, c'est que il me semble que pendant trop longtemps, nous sommes restés dans le récit, soit la fin des grands récits, soit l'idée d'une histoire absolument apocalyptique. Qu'il s'agisse de l'environnement, qu'il s'agisse de l'essentialisation des conditions des uns et des autres, vous êtes immigré, vous êtes une femme, qui fait que finalement, les individus se sont trouvés expulsés de l'histoire. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est non seulement peut-être redonner un sens à cette histoire, et là je serai un peu moins sévère avec le président que Sylvain Bourmeau, mais c'est vrai que c'était tout à fait à la fin de la soirée. Il a quand même essayé de dire que la difficulté maintenant, c'était qu'il fallait reconstruire du récit, mais qu'on n'aurait jamais un récit unique, qu'il n'y aurait plus de récit universel. Et que donc la difficulté, c'était d'arriver finalement soit à concilier des récits, soit à les hiérarchiser. Il a beaucoup parlé et repris, je crois, je ne sais plus si c'est d'Olivier Mongin, la notion de frontière, cette idée d'une frontière, en montrant comment effectivement cela permettait de reconstruire des relations par-delà la frontière. Donc, si vous voulez, cette tension, elle existe. On ne peut pas la nier, mais il faut la réhabiter. Et il faut la réhabiter positivement. C'est-à-dire que, effectivement, il faut arriver à reconstruire un récit dans lequel l'individu ne disparaisse pas, comme ça a été le cas quand même jusqu'à maintenant. Et je dois dire que un certain nombre de philosophes en sont quand même, d'une certaine façon, responsables. Mais c'est vrai qu'on revient là-dessus en tout cas en philosophie, et puis un récit dans lequel l'individu ne reste pas fermé sur lui-même, qui ne soit pas un solipsisme, et qui lui permette d'établir des relations avec les autres, et au-delà, avec un corps politique. Et c'est ce que, on voit très bien, expriment les Gilets jaunes.
Vous évoquez les frontières, vous parlez de murs, Agathe Cagé, dans votre livre « Faire tomber les murs entre intellectuels et politiques ». Ces murs, ils tiennent à quoi, selon vous, et comment les faire tomber? C'est-à-dire, est-ce que s'il faut imaginer, je sais pas, une forme de coopération, justement, entre ces deux mondes, une participation active? Vous évoquez notamment dans l'introduction de votre livre deux cas d'intellectuels, Axel Kahn et l'historien
Patrick
qu'on connaît bien, voilà, Patrick Veil, ici, qui ont réussi, dites-vous, finalement, à concilier aussi leur travail d'intellectuel et leur efficacité politique, disons.
D'abord, il faut qu'on sorte de l'endogamie française, hein, qui est une endogamie structurelle de construction de tuyaux d'orgue dès que vous rentrez dans les études supérieures. D'un côté, vous formez des personnes qui vont aller travailler dans l'entreprise privée. D'un autre côté, vous formez des personnes qui sont destinées à la recherche. Et d'un troisième côté, vous formez des personnes qui sont destinées au service public avec les différentes écoles de la fonction publique.
Et ces mondes ne se croisent pas.
Ces mondes ne se croisent pas. Les troisièmes de la fonction publique n'apprennent pas à conduire et à comprendre un travail de recherche. Le monde de l'entreprise n'est pas non plus en contact avec eux, et le monde de la recherche parfois a du mal à accepter la complexité de l'accompagnement, de la construction d'une politique publique. Donc on a des mondes qui ne se croisent pas et qui se séparent extrêmement tôt. Comment on peut faire? D'abord en repensant les formations, notamment dans les écoles de la fonction publique. Aujourd'hui, vous avez des choses très rapide qui se passe en termes de transformation, notamment ce que va permettre l'intelligence artificielle en termes de traitement du droit administratif, en termes de traitement des finances publiques. Vous allez pouvoir apprendre autre chose aux futurs fonctionnaires, et notamment il faudrait leur apprendre à comprendre ce qu'est la recherche. Il faut accepter dans les parcours de chercheurs que vous faites un parcours de chercheur, vous êtes même au CNRS, vous allez soit créer une entreprise, soit vous rejoignez une administration, que ce soit Bercy, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Il faut qu'on accepte que dans un parcours de chercheur, ça soit quelque chose de valorisé et pas quelque chose qui vous bloque totalement pour l'étape d'après. Et il faut ensuite, enfin, pour commencer, des personnes que j'appelle des intellectuels hybrides, qui ont un pied dans la politique, un pied dans la recherche, qui ont un pied dans le fonctionnement administratif. Oui. Typiquement, un Patrick Veil, parce qu'il a commencé en cabinet ministériel, parce qu'il a fait la politique en tant que militant, parce qu'il est devenu historien d'immigration, il s'est parlé à ces mondes-là, donc lui peut pousser ce type de mouvement, et c'est extrêmement important. C'est pas par plaisir que je dis qu'il faut que ces personnes se parlent, c'est parce que si on ne met pas face aux problèmes que l'on rencontre en matière d'éducation, de recherche, de santé, de logement, d'accompagnement des aînés, toutes les connaissances qui existent ensemble pour faire quelque chose, on ne va pas y arriver. On voit bien qu'aujourd'hui, les tuyaux d'orgue ne fonctionnent pas, ça pénalise la société française, ça appauvrit considérablement ce que chacun peut faire, parce qu'il ne se nourrit pas de ce que les autres peuvent apporter. Chacun, bien sûr, a sa place, mais surtout avec une capacité, quand vous êtes politique, de partir dans la recherche, quand vous êtes dans la recherche, de partir dans le monde économique, quand vous êtes dans l'administration, aussi dans le monde économique et de créer ces parcours un tout petit peu plus sinueux, de sortir de la voie toute trace à la française qui a ses limites.
Ce à quoi appelle justement le président de la République. C'est-à-dire, il appelle les intellectuels à jouer leur rôle. C'était le rôle que je définissais là, en référence avec Foucault, de l'intellectuel spécifique, c'est-à-dire de gens qui font, effectivement, qui ont un savoir savant, une compétence, et qui, cette compétence, la font travailler dans la cité.
Bon, je pense que c'est aux intellectuels de se saisir de ces rôles. Ils n'ont pas besoin d'un appel du président de la République pour se mettre dans ce débat-là,
Il ne s'agit pas d'avoir son accord ou pas son accord. Ce qu'il y a, c'est que, effectivement, comme l'a dit Perrine Simonnois, il y a aujourd'hui effectivement une situation où il y a une atonie, il y a une anomie sociale, on peut dire, c'est le risque aujourd'hui, l'anomie sociale et la société des individus, et une certaine atonie des intellectuels qui ne jouent pas leur rôle, et qui ne jouent pas leur rôle, pas seulement sur le domaine de leurs compétences spécifiques, mais de la sortie de leur domaine spécifique. Et là, si vous voulez, j'en reviens à la question de l'horizon d'attente. De l'Europe, par exemple, on n'en a pas parlé là, mais c'est tout à fait fondamental, parce que Sylvain Bourmeau a été très intéressé par les débuts de l'émission. Moi, j'ai été plus intéressé par la fin. Et la fin, c'est justement cet horizon qui doit mobiliser, où les problèmes ne se posent, tous ces problèmes, qu'à l'échelle européenne. Comme l'a dit le président de la République, la Chine a un grand récit. Les musulmans, les évangélistes ont un grand récit. C'est à nous d'avoir sur nos valeurs et un projet de société qui soit égalitaire, de liberté, etc. C'est à nous de le créer à l'échelle européenne.
Perrine Simon-Naoum, vous avez 30 secondes. Vous faites de la radio, vous savez comment faire.
Oui, j'ai 30 secondes de publicité pour vous dire que nous avons créé avec l'ENA et l'ENS une chaîne où nous entendons former et faire se rencontrer justement les normaliens et les jeunes énarques ou ceux qui sont en formation à l'ENA. Et c'est une chaire qui démarre dans 2 semaines par un colloque.
Ben voilà, ça, une des pistes intéressantes qu'on aura pu évoquer ce soir dans le cadre de cette discussion. Merci beaucoup à tous les quatre d'y avoir participé. Perrine Simon-Naoum, Agathe Cagé, François Dos et Sylvain Bourmeau. Les références bibliographiques des uns et des autres, c'est évidemment sur notre site franceculture.fr, site sur lequel vous pouvez retrouver l'intégralité du débat d'hier soir. 8 heures de débat que l'on peut télécharger. Et voilà, merci à l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Fanny Richet, Virginie Ledoux, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyre et Legras, avec à la prise de son Florent Bujon. Dans 3 minutes, ce sera la dispute. Arnaud Laporte.
Alors, soit on fait une dispute musique dans 3 minutes, soit vous continuez jusqu'à 2 heures du matin.
Si eh bien, on va continuer. En fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on continue.
Bon, eh bien, je m'en rejoins chez moi. Je vous écouterai à la maison comme hier. Non, bon, on va parler de. Non, je ne vous sens pas vraiment prêt, en fait. Oh, donc, on va, si, non, on va passer un peu de musique, ça peut être bien, et en parler surtout dans 3 minutes. Mais pour l'heure, 19h, vous écoutez France Culture, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.